9h14 minutes. Plusieurs ont dit que la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles en quelque sorte a amené les racistes à se dédouaner, à s'exprimer publiquement, que ce soit sur des réseaux sociaux, peu importe la plateforme, et même dans la rue. Dany Laferrière nous propose un livre, Le Petit Traité sur le racisme, que je lis depuis 48 heures, et qui nous amène en Amérique à travers des personnages historiques. On peut penser à Luther King, Abraham Lincoln, mais également avec, comme on dit, ses observations comme écrivain sur les différentes manifestations du racisme. Il est avec nous ce matin. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait le choix, vous le dites d'entrée de jeu dans le livre, de parler du racisme aux États-Unis. Pourquoi vous concentrez sur les États-Unis?
C'est immense, les États-Unis. C'est un pays d'à peu près 332 millions d'habitants. Et il y a plus de 43 millions de Noirs, ce qui fait beaucoup plus que de Canadiens au Canada. Le Canada est avec 38 millions de citoyens, ce qui fait à peu près 5,5 fois plus que de Québécois, qui est à peu près à 8 millions. Donc vous voyez l'affaire. Et du point de vue, j'allais dire, historique, c'est une des premières puissances au monde, la seule peut-être, où l'esclavage s'est passé sur son propre territoire. Ce qui fait qu'après l'esclavage, quand le racisme s'est développé pour continuer à faire une différence entre le noir et le blanc, pour permettre de payer moins bien le noir, eh bien, dans les bureaux, le noir, l'ancien esclave, se retrouve toujours, chaque matin, nez à nez avec l'ancien maître. Donc on a une histoire continue, un face-à-face régulier, quotidien et constant. Et d'autre part, on a un personnage quand même, vous l'avez dit, flamboyant, et Donald Trump qui pendant 4 ans, à coup de tweets, on n'a même pas besoin de followers, de disciples, tout seul il menait l'affaire, la machine, et qui alimente ça. Et jour par jour, heure par heure, minute par minute, pendant 4 ans, on a une presse la plus puissante au monde, le New York Times, le Washington Post, le Chicago Tribune, le Miami Herald, le Chronicle San Francisco, le Los Angeles Times, une télé, ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN, donc une puissance de feu. Moi, comme écrivain, avec une vue sur l'Amérique, je me suis dit, si je comprends ce qui se passe, ou que j'explique ce qui se passe aux États-Unis, j'explique à peu près ce qui se passe dans le monde, en ce qui concerne cette situation-là, parce que, comme on dit, quand l'Amérique s'enrhume, le monde, tous.
Vous nous faites découvrir des personnages, vous partagez certaines expériences également. Et ce qui frappe en lisant votre livre, c'est que le racisme s'exprime de tellement de façons. Bon, c'est sûr, par des mots, par des groupes. Et là, vous faites allusion à quelques reprises au Ku Klux Klan, mais aussi par des silences ou par l'indifférence. Le racisme, il n'y a pas une expression seulement, là.
Non, il n'y a pas une expression, il n'y a pas un seul groupe non plus. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Il y a des situations complexes et difficiles. Et ce qui est encore pire, c'est que la plupart des racistes, ceux qui se disent racistes, qui se présentent comme tels, le sont beaucoup moins qu'ils ne le croient. Ce sont des victimes, ce sont souvent des petits blancs, comme on dit, entre guillemets, et des petits blancs du Sud, et qui doivent affronter des Noirs qui se retrouvent face à eux, et dans les champs, et dans les petits commerces, dans les usines. Mais ce ne sont pas eux les racistes. Pourtant, ils portent le racisme fièrement, puisque c'est la dernière chose qui leur reste, puisque l'Amérique n'a pas été gentille avec eux. Ils n'ont pas accès à l'argent. Ils n'ont pas accès au pouvoir. Les gens qui sont les vrais racistes, ceux qui manipulent le racisme, ceux qui lui donnent un peu toute son essence, sa gasoline, son carburant, et ceux pour qui le racisme rapporte, à qui le racisme rapporte et les privilèges et l'argent, ils ne rencontrent jamais de noirs, ils ne rencontrent jamais de petits blancs. Donc ils laissent un groupe de gens un peu sur le terrain, comme si c'était une guerre, ils les laissent au front. Et ils servent ces gens-là de chair à canon, ils s'entretuent entre eux. C'est cela encore, c'est la chose la plus terrifiante du racisme. C'est que les mauvaises blagues, les insultes, ils sont faites par des gens qui, s'ils avaient un meilleur salaire, une situation beaucoup plus intéressante, et s'ils avaient des choses à faire chez eux, s'ils étaient bien, bien occupés à des choses qui les intéressent, s'ils avaient à s'occuper de l'étude de leurs enfants dans de bonnes universités, ils auraient moins de temps à exercer ce racisme verbal, ce racisme primaire. Et comme les riches ont moins de temps pour exercer cela, d'ailleurs, ils ne rencontrent même pas de Noirs.
Mais ce racisme-là, et bon, vous parlez de l'esclavage, c'était essentiel à la chaîne de production. Vous racontez l'histoire de cet esclave qui est avec donc la femme du propriétaire terrien là, qui l'exploite et qui l'abuse. Elle est en train de lui enseigner, je me souviens pas si les mathématiques ou la langue, mais...
Non, écrire.
Écrire tout simplement, oui.
Simplement, et lire.
Et son mari qui lui dit, tu peux pas faire ça, là, parce que il faut garder le contrôle sur lui.
Il faut garder le contrôle, parce que s'il apprend à lire, s'il sait lire, il va questionner le système. Il est notre richesse. Ce petit garçon qui était un esclave pauvre, misérable, même parmi les esclaves, parce qu'il a été rejeté, il était contrefait. Il faut dire rapidement que ce petit garçon s'appelle Frederick Douglass et qu'il sera le plus grand orateur noir et blanc compris du 19e siècle américain. Il va écrire un livre essentiel qui s'appelle « Mémoire d'un esclave » et donc qui sera traduit en français par un écrivain et philosophe québécois. Donc ce petit garçon, il a compris en entendant le maître qui est fou de colère contre sa femme, qui est une personne extraordinaire, magnifique, qui n'a aucune idée de ce qu'est le racisme et ses valeurs comme la cruauté ou l'injustice, il va comprendre le monde. C'est-à-dire que écrire, lire, c'est une chose importante. Si tu sais lire le monde sous la toit, mais c'est un monde rempli de dangers, puisque tu connais l'envers des choses.
Je fais une parenthèse parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais vous racontez un moment où vous étiez à Montréal, rue Saint-Hubert, à la recherche d'un logement, puis Dieu sait que la discrimination existe quand on cherche comme ça un logement. Et là, vous avez rencontré cette femme qui a eu une attitude peut-être inattendue.
Inattendue, c'était deux femmes, deux vieilles dames qui sont mortes à présent malheureusement, qui habitaient derrière le terminus voyageur, la gare, et j'ai frappé, elle a ouvert, la plus jeune, elles avaient 80 ans et plus, et je les ai suivies dans un couloir sombre, je me suis assis, et immédiatement elle m'a donné la clé, me disant, enfin, on va pas discuter, elle m'a demandé rien, aucune preuve d'argent, rien du tout, et j'ai voulu savoir pourquoi. Et elle m'a dit, cette chose étrange, à Montréal, et elle m'a dit, c'est parce que notre père était un fanatique, un admirateur de Lincoln, Abraham Lincoln, qui a fait la guerre de sécession aux États-Unis pour libérer les esclaves du Sud et leur permettre d'avoir les mêmes droits que les esclaves, que les citoyens noirs du Nord. Et depuis, elle nous a fait, notre père, il nous a fait jurer d'aider et de protéger un noir en difficulté. Et j'étais ce noir en difficulté, me voilà.
Extraordinaire.
C'est magnifique de relire ça à l'histoire. C'est bien sûr que toute gentillesse, toute courtoisie, toute bonté est acceptable sans question, mais d'entendre ça relié à l'histoire, de voir l'histoire vibrante devant moi, et cette dame était très âgée, de voir l'histoire vibrante, et de savoir que cette dame qui me parlait comme les petites filles qui avaient reçu la leçon de leur père, je vois, j'imagine ces deux petites filles dans le salon, et que le père qui leur dit, écoutez, il y a eu des injustices, et nous en sommes responsables d'une certaine manière, mais nous pouvons faire quelque chose. Et elles ont gardé cette histoire et cette promesse dans leur tête, et un jour comme ça, un noir a frappé à leur porte.
Mais votre livre est riche. Ce sont de courts textes, mais tellement imagés. Bon, je suis écrivain, mais quand vous racontez des Noirs qui ont peur des Noirs dans certains quartiers, des femmes noires qui détestent les athlètes qui ont du succès et qui se tournent vers des femmes blanches et blondes, c'est ça l'Amérique que vous décrivez, là.
Oui, c'est une Amérique très contrastée avec toutes sortes de choses, c'est-à-dire c'est un livre où d'une part, du point de vue historique, il s'agit de l'Amérique, mais beaucoup aussi des réflexions que j'ai écrites concernent tout le monde, et même pas le racisme seulement, parce qu'il y a des questions de classe, mais il y a des questions de bon voisinage, il y a des haines dont on ne sait même pas d'où ça sort dans la vie. Et il y a des haines dans les familles. D'ailleurs, je l'ai dit dans un texte, et la plupart des meurtres qui se font sur les Noirs sont faits, ne l'oublions pas, par des Noirs. et une grande partie des meurtres qui se font sur les Blancs sont faits par des Blancs, et une grande partie de viols se passent en famille. Et de, ce petit texte s'appelle « Entre nous ». « Entre nous, nous nous tuons ». Donc, et ce texte que vous avez remarqué et qui m'a fait plaisir, c'est un de mes neveux et qui est allé avec sa grand-mère et qui descendait vers le centre, vers Miami Beach et qui s'est arrêté, qui traversait un quartier noir. Et sa grand-mère lui dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu montes la vitre? C'est un noir. Il est joueur de football américain. Il est baraqué. Mais elle la connaît parce que elle le connaît parce que les grands-mères nous connaissent. Elle sait très bien que son petit-fils a peur, je le sais aussi, des rats. Il a peur de la nuit. Il a peur de son ombre. Mais il est un type qui fait peur aux autres joueurs sur un terrain de football américain. Alors il monte sa vitre et la grand-mère lui dit « Mais pourquoi tu montes ta vitre ?» Il dit « Parce que c'est un quartier de noir. Il est noir. » Et la grand-mère lui dit « Et toi, tu n'es pas noir ?» Il dit mais moi, je ne les connais pas, ceux-là. » C'est beau. C'est-à-dire qu'on dépasse la question de couleur, de race. Il ne les connaît pas, ceux-là. Parce que ça existe aussi. C'est pas parce qu'on est noir qu'on ne se fera pas tuer par un noir. Je ne les connais pas, ceux-là. Mais la grand-mère voulait lui donner une leçon. Elle lui dit, descends de la voiture. Quand même, il ne faut pas avoir peur. Et il descend et il ouvre le capot pour faire semblant que c'est une panne. Et des jeunes gens sont arrivés près de lui, lui ont parlé de football et font fait des photos avec lui. Mais je signale à la fin que ça ne serait pas passé pour tout le monde de la même manière. La grand-mère voulait lui montrer que il faut connaître le quartier. Si tu es noir, tu as plus de chance là. Enfin,
Mais toute la notion de la peur de l'inconnu, de la peur de l'autre, celui à qui on ne parle jamais, ben oui. Qui nous fait peur, c'est.
Ben tout simplement. Tout simplement, et même si tu es baraqué, même si tu es noir, tu as peur d'un quartier noir. Parce que en Haïti, nous sommes tous noirs, et pourtant, il y a eu les tontons à côte. Et nous n'en tuons. Il faut pas. Cela n'excuse pas le racisme. Cela n'excuse pas le racisme parce que c'est un danger, c'est une injustice de plus qui s'ajoute à cela. Ajouté au fait que des noirs peuvent se tuer ou des gens de même quartier peuvent s'entretuer, il y a aussi que quand ces mêmes gens noirs traversent dans un autre quartier blanc, ils peuvent aussi tomber en danger. Donc ils se font tuer deux fois. Et ça, c'est une injustice. Alors je voulais dire aussi ce qui est pour moi important, parce qu'on le dit souvent, j'entends même dire ça à Montréal, comment ça se fait que je ne puisse pas circuler si je suis blanc dans ma ville à Montréal, quand on va dans un quartier où il y a plein de noirs, j'ai peur, je me sens en danger. Alors que quand un noir vient dans mon quartier, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'est pas en danger. Eh bien, le problème, c'est que, naturellement, la peur de l'inconnu, quand on va dans un quartier où il y a plein de noirs, on a l'impression qu'il y a plein de noirs, parce qu'on a, et comme diabolisé les noirs. On peut être en danger aussi, parce qu'on est en danger, quand on tombe dans un mauvais quartier de l'autre quartier. Bon, mais quand on ne voit personne de dangereux dans un quartier blanc, c'est parce que ce ne sont pas les Blancs qui protègent ce quartier, c'est la police. C'est-à-dire que si vous circulez, vous passez trois fois dans la même rue et à Ville-Mont-Royal, vous allez d'abord voir une voiture de sécurité, ensuite deux voitures de police. L'État, c'est-à-dire la société sécuritaire, répressive, protège les privilèges. Et ça ne veut pas dire, si vous allez dans un quartier très pauvre, je ne sais pas moi, à Pointe-aux-Trembles, vous n'aurez pas toute cette sécurité dans ce quartier blanc. Mais je veux dire, l'État protège. Mais quand vous êtes dans le quartier à Ville-Mont-Royal, vous n'avez pas l'impression que ce quartier est protégé. Parce que on vous voit, on vous reconnaît, vous êtes visible à 200 mètres. On voit que vous êtes blanc, on voit la voiture. Si vous êtes blanc, vous venez avec une voiture cabossée complètement, on vous regardera deux fois. Donc, on voit tout cela. Et moi, je me souviens qu'à New York, quand j'allais dans des invitations, j'arrivais dans un quartier blanc et que je descendais de la voiture, même une bonne voiture, immédiatement, des vieilles dames me disent « Ah, et vous cherchez quelqu'un? Est-ce qu'on peut vous aider ?» J'étais avec un journaliste américain, il a dit « Ne les écoutez pas. Ce sont des questions hypocrites. Au fait, elles veulent vous dire « Vous n'êtes pas d'ici, identifiez-vous. » Donc ça veut dire qu'il y a une sécurité, il y a une protection qui se fait, il y a un téléphone qu'on utilise tout le temps le téléphone pour appeler la police et vous êtes surveillé, vous êtes vu et ça ne paraît pas.
Daniel Laferrière, merci vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Bonne journée à vous.
Merci aussi.
OK, au revoir. Daniel Laferrière, petit traité sur le racisme publié chez Boréal. Ça vaut, je pense pas que ça vaut la peine. Vous devriez lire ça, sérieusement, là. Et c'est un survol de l'Amérique. C'est des images fortes, des personnages qu'on découvre, donc qu'on connaît, mais qu'on apprend aussi, je dirais, avoir évolué de façon différente. Petit traité sur le racisme. 9h29.